Alors, on va accueillir désormais un professeur de renom que vous attendez tous. Il a été pendant 26 ans chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches en France. C'est un ancien professeur d'université, médecin et spécialiste des virus. Il est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes et il a été président de la commission spécialisée maladies transmissibles. Alors j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec vous le professeur Christian Perron.
Effectivement, il y a eu une expansion mondiale de l'épidémie, mais quand on regarde, les chiffres de mortalité sont restés extrêmement bas. Si vous pouvez lire le livre de Pierre Chaillot, que je vous recommande, en France, qui a fait une analyse remarquable des chiffres officiels en montrant que par rapport à d'autres années, il y avait finalement une mortalité qui n'était pas plus élevée que certaines années de grippe ou de canicule. Et il y a eu une surmortalité qu'on a pu voir, mais uniquement, même s'ils essayaient de nous faire peur, il n'y avait plus trop de problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme finalement, il y a quand même eu des malades. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Malheureusement, il y a eu des morts. Il faut leur rendre hommage à leur famille. Pour faire peur aux gens, on a fabriqué en chaîne des vagues. Donc, il y avait des usines à vagues. L'usine à vagues, c'était la PCR pour créer des faux cas, des faux décès, des décès réels, mais qui étaient faussement attribués au Covid. Parce que la PCR, moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Carrie Mullis, qui est cet Américain de Californie, de la Roya, qui avait inventé la PCR, qui a eu le prix Nobel. Malheureusement, il est mort juste avant l'épidémie de Covid. Sinon, je pense qu'il aurait poussé un coup de gueule dans les médias. Il a toujours dit, ne faites jamais la PCR en dépistage de masse chez des gens qui n'ont pas de symptômes. C'est une hérésie scientifique, parce que même si c'est une très bonne PCR, il y a déjà des faux positifs. Moi, je l'avais dit dans des vidéos. Moi, je peux aller au ministère de la Santé demain, je fais une PCR pour la chaude pisse. Je trouve plein de cas de chaude pisse au ministère. Hein, mais... voilà. Je n'ai pas eu de réponse du ministère pour le dépistage. Donc, finalement, on se rend compte qu'ils ont beaucoup trop amplifié. Il y a les cycles d'amplification. Normalement, on amplifie 25-30 fois, les soins sont au-delà de 45. Et on a créé une épidémie de tests positifs. Enfin, je pense qu'il y avait peut-être des mauvaises intentions derrière. Cette pandémie, certains l'ont appelée la plandémie parce qu'effectivement, elle était planifiée depuis longtemps. Quand on voyait les écrits de Jacques Attali en France, de Klaus Schwab, si vous avez lu la première page du journal The Economist en janvier 2019, où vous pouvez la trouver sur Internet facilement, il y a tous les symboles de la pandémie. Il y avait même le pangolin. Moi, à l'époque, je ne sais pas ce que c'était qu'un pangolin. Neuf mois avant, il prévoyait qu'un jour, un pangolin allait rencontrer une chauve-souris sur un marché en Chine. Ils sont très forts. Bon. Alors, en plus, c'était pour moi surtout une pandémie politique, médiatique, financière, plus que médicale. Et ce qui m'a beaucoup choqué depuis le début, parce que moi, comme je me battais depuis la maladie de Lyme depuis 20 ans, j'en dirai un mot, j'avais vu comment on pouvait manipuler les données de santé publique, manipuler les journaux médicaux, les experts. Là, j'ai vu que tout était fait à l'envers. C'est pour ça que je suis allé dans les médias dès mars 2020 en disant « C'est quoi ce BINS là ? C'est pas comme ça qu'on gère une épidémie. » Et d'ailleurs, depuis mars 2020, je n'ai pas changé d'avis, même s'ils m'ont un peu embêté en cours de route. Ce qui était intéressant de voir, c'est que dès le début, l'exemple du premier SRAS en Chine, ce qu'avait dit Anthony Fauci, qui dirigeait la branche maladie infectieuse du NIH, qui est le centre de recherche américain, il avait écrit dans un grand journal médical international que l'hydroxychloroquine était le meilleur traitement des coronavirus si jamais il y avait une future épidémie. Et même en Chine, il y avait une équipe, c'était Chen et collaborateurs, qui avaient publié une étude randomisée chez des gens qui avaient un Covid-19 avec des images au scanner, une atteinte pulmonaire, randomisée hydroxychloroquine contre placebo. C'était nettement à l'avantage de l'hydroxychloroquine. Donc, quand on a vu tous les experts de plateau défiler, il n'y a aucune étude randomisée dans le monde. Bah, je ne sais pas, c'est bizarre quand même. C'était publié dans PLOS ONE en 2020. Bon, Raoult aussi a fait un travail remarquable sur la chloroquine. Bah, il en a pris plein la figure. À Garches, on a fait ces traitements. On a eu les meilleurs résultats en termes de survie des patients Covid avec l'IHU de Marseille. Ça n'a pas plu du tout aux autorités. Malheureusement, la plupart des décès auraient pu être évités. J'avais dit en juin 2020 que le gouvernement avait beaucoup de morts sur la conscience. Évidemment, ça ne m'a pas valu que des amis. Et surtout, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est que pour une pandémie qui faisait aussi peu de morts, on avait des traitements. Un vaccin était totalement inutile. Pourtant, ils ont tout fait pour nous faire peur, pour nous imposer ce soi-disant vaccin. Mortalité très faible, traitement efficace, pas cher. Et il n'aurait jamais pu avoir, de la part des agences de régulation du médicament, une autorisation de mise sur le marché, même conditionnelle, s'ils avaient reconnu qu'il y avait un seul produit efficace. Parce que c'est, si un vaccin a vraiment eu ses 10 ans de développement normal, qu'il est parfaitement sûr et efficace, on peut le commercialiser même s'il y a un traitement. Mais là, en phase expérimentale, on n'a pas le droit. Et ce qui est curieux, quelquefois, ils sont un peu schizophréniques parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de traitement qui marche, mais ils ont quand même dit que le remdesivir était génial, ce qui est un peu curieux. Vous savez que Raoult avait révélé qu'au début, il avait été invité au premier conseil scientifique à l'Elysée. Alors Macron était là. Vous connaissez Macron, hein, je crois, vous avez entendu parler. Et il y avait le... Alors, il y avait les experts soi-disant indépendants et il y avait le PDG de Gilead qui était là, qui avait mis des boîtes de remdesivir sur la table en disant on a le traitement miracle du Covid. Oui, c'est l'indépendance. Alors, pourtant, ces pseudo-vaccins Covid-19, ils ont commencé des études chez l'animal. Manque de chance, les rongeurs, pour la plupart, sont morts. Bon, alors, c'est pas un bon modèle, hein, les rongeurs, il faut passer à l'homme directement. Il y a aussi des anomalies squelettiques chez des nouveau-nés, je ne sais plus si c'était des souris ou des rats. Ils sont passés directement à l'homme. En plus, ils avaient déjà commandé les vaccins, les flacons, les fioles avant la pandémie, mais ça, c'est un petit détail. Et sur les études, soi-disant, c'était que des données de l'industrie pharmaceutique, même s'il y en a qui ont été publiées, même dans le New England Journal of Medicine ou... Et il y a quand même des statisticiens, des gens indépendants qui ont dit qu'il y avait des graves erreurs méthodologiques. Et même, il y a une Américaine qui travaillait pour une société qui sous-traitait pour Pfizer pour analyser les données, qui a publié, elle était courageuse, dans le British Medical Journal, qu'il y avait eu de la fraude et des données falsifiées dans les résultats. Tout ça, c'est public, hein. Là, donc, on a commencé à inoculer la population avec un recul de quelques mois. Normalement, moi, j'étais dans le monde du vaccin pendant longtemps, c'est 10 ans minimum de recherche clinique avant d'inoculer. La femme enceinte, c'est 20 ans. Donc là, on a mis en danger les femmes enceintes, les enfants. Ce qui est le plus grave là-dedans, c'est que les obligations, soi-disant vaccinales, sont totalement illégales dans ce domaine, puisque on est en phase expérimentale. Donc, les lois nationales, les traités internationaux, la Convention d'Oviedo, le Code de Nuremberg, c'est totalement interdit d'injecter de force un produit en phase expérimentale à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement éclairé. Donc, ils vont tous un jour être devant un tribunal, hein, tous ceux qui ont décidé ça, j'en suis convaincu, parce que c'est assimilable à un crime contre l'humanité, il ne faut pas se voiler la face. Alors, toujours pas d'image, bon. Alors, c'était une pandémie de peur, hein. Et alors, ce qui a été frappant depuis le début, c'est que la pandémie ne faisait des dégâts que dans les pays riches, qui avaient les meilleurs médecins, les soi-disant, hein, parce qu'il y a d'excellents médecins partout dans le monde, mais les meilleurs hôpitaux, le plus de moyens financiers pour la santé. Et ce qui m'avait beaucoup choqué en France, c'est que après la première vague, je regarde les chiffres, il y avait autant de morts en France que dans tout le continent africain. Bon. Et puis en Afrique, la moitié des morts, ils étaient en Afrique du Sud, qui était le plus sous la pression des lobbies internationaux. Donc ça ne collait pas bien. Donc une pandémie de corruption, ça, on y reviendra. Il y a une pandémie de conseils simultanés privés, exercés à prix d'or sur beaucoup de gouvernements, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que le même jour, en Australie, en Suède, en Autriche, en Finlande et en Argentine, on prenait les mêmes décisions la même semaine. Alors, on a su plus tard qu'il y avait beaucoup de cabinets de conseil derrière, dans le fameux McKinsey, mais qui n'était pas le seul. Alors, ce n'est pas moi, le petit complotiste, qui dit ça. C'est un rapport officiel du Sénat français, qui l'a publié il y a quelques mois, où il disait, il s'étonnait que, finalement, les rapports donnés par McKinsey, il n'y avait pas beaucoup de substance dedans, que tous les fonctionnaires du ministère auraient pu faire ça très bien, et que ça avait... Alors ça, c'est les chiffres officiels, il y en a d'autres qui disent que c'est sous-estimé, mais enfin, officiellement, selon le Sénat, Macron a donné plus d'un milliard d'euros à ses cabinets de conseil. Et alors, moi, je vais le dire, ce n'était pas connu, mais je suis fier d'avoir écrit dans mon dernier livre, parce que je l'avais découvert, j'avais les preuves, et d'ailleurs, je n'ai pas été attaqué en diffamation pour ça. C'est vrai que les employés de ces agences de conseil, y compris McKinsey, sont infiltrés dans les ministères, en tout cas au ministère de la Santé, et qu'ils ont du papier en tête, bleu, blanc, rouge, République française, monsieur Tartampion. Ils ont des adresses courriel, machin truc, @santé.gouv.fr. Donc on croit que c'est des fonctionnaires. En fait, ce sont des gens du privé. Et ce qui était très, très aussi surprenant, mais enfin, qui sautait aux yeux, même si les médias ne voulaient pas le regarder, c'est que les pays mauvais élèves qui n'ont pas suivi les règles de l'OMS et autres, ils ont eu des résultats bien meilleurs. Ça, c'est. Il faut toujours regarder ce qui se passe à l'étranger. Hein. Alors, on le devinait dès le début. Hein, moi, j'avais fait une lettre en français qui avait été traduite en anglais, c'était en 2021, quand ils ont commencé à lancer les campagnes vaccinales. J'avais dit, attention, ce sont des produits expérimentaux. Dans notre arsenal génétique, parce qu'on a, dans notre chromosome, on a intégré des anciens rétrovirus depuis des millénaires qui viennent de l'animal. On peut coder pour de la transcriptase inverse qui va à l'envers de l'ARN vers l'ADN. J'ai dit, attention, on n'a aucun recul, ça fait quelques mois. Ça ne va peut-être pas se produire chez tout le monde, mais il y a des gens qui vont transcrire à l'envers, comme pour le sida, l'ARN vers l'ADN. Alors, je me suis fait insulter, bien entendu. Et ça n'a pas loupé. Quelques mois plus tard, dans PNAS, Proceedings of National Academy of Science, un premier article qui dit, ben, on peut retrouver la copie de l'ARN messager du vaccin dans l'ADN humain. Alors, ça, c'était in vitro, mais il y a d'autres études qui ont été publiées depuis. Donc, ces vaccins, ben, on a vu que ce n'est pas des vaccins, qu'ils étaient inefficaces. Ils n'empêchent pas la transmission. Même c'est Pfizer qui l'a dit. Bon, même si Bourla n'avait pas osé venir, il est courageux, il n'avait pas osé venir devant le Parlement européen. Il y a un député hollandais que j'ai rencontré par la suite parce que Bourla avait envoyé une de ses adjointes qui n'était peut-être pas bien préparée. Puis il lui a dit, ben alors, est-ce que vous avez des données sur la transmission? Ben, elle était un peu déstabilisée. Elle a reconnu que non, il n'avait pas, même pas cherché à savoir si ça marchait. Alors, on m'a dit depuis longtemps, oui, d'accord, parce que maintenant, tout le monde reconnaît que ça ne marche pas sur la transmission. Mais même Olivier Véran, l'autre jour, a dit, heureusement qu'on a obligé les soignants à se vacciner, c'est honteux de les réintégrer, parce que si on n'avait pas fait ça, ça aurait mis en péril l'hôpital. Quoi. Ils ont l'évidence sous les yeux, mais ils continuent de mentir, c'est absolument hallucinant. Alors on dit, oui, d'accord, maintenant tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que ça ne marche pas sur la transmission, mais au moins ça a sauvé beaucoup de gens, parce que ça a protégé des formes graves et des morts. D'ailleurs, quand j'étais chez Pascal Pro, là, il m'avait balancé ça. J'ai dit, ben non, malheureusement, c'est tout l'inverse. Je l'avais déjà dit aussi en fin 2021 à la télé, sur CNews, ce qui m'avait valu des ennuis avec le Conseil de l'Ordre. Il y avait les données. L'Agence de santé publique anglaise était la seule qui donnait les chiffres de mortalité, mais avec les statuts vaccinaux, on pouvait voir qui était vacciné, pas vacciné, qui mourait, qui ne mourait pas. Et j'avais vu qu'un Anglais à l'époque, s'il était vacciné, qu'il rencontrait le Covid et qu'il faisait une forme grave, avait 4 fois plus de chances de mourir qu'un non-vacciné. Alors je me suis fait aussi insulter, mais après, les mêmes données sont apparues dans beaucoup de pays. Donc on sait maintenant que le vaccin était plutôt un facilitateur du virus, ça a aggravé les choses. Et on l'a vu par exemple en Inde, au Vietnam, où tant qu'ils ne vaccinaient pas, tout se passait bien, il n'y avait presque pas d'épidémie, pas de mort. Et quand ils ont lancé les campagnes vaccinales, ça a flambé, il y a eu des morts. Et heureusement, les gouvernements indiens et vietnamiens ont été intelligents, ils ont arrêté, et l'épidémie est rentrée dans l'ordre. Alors on dit, non, ben, c'est pas vrai. Mais maintenant, ce qui est terrible, c'est qu'ils ne peuvent plus le nier. On l'observe dans tous les pays depuis quelques mois. Il y a une augmentation importante de la mortalité dans les populations vaccinées, y compris chez des gens jeunes. Alors qu'on n'avait pratiquement pas vu d'augmentation de mortalité pendant le Covid, les deux premières vagues. Là, et ça touche des jeunes. On a vu tous ces sportifs qui s'écroulent sur les terrains de foot. Les pilotes et navigants aussi qui ont été victimes, qui ont fait des arrêts cardiaques dans le cockpit parce que parce qu'elle baisse un peu de la pression d'oxygène. Et après, alors, moi, j'avais voyagé en avion sur Air France, puis j'avais rencontré par hasard aussi un pilote d'Air France. Ils m'ont tous raconté la même chose. Il y a des plaintes en justice aux États-Unis avec American Airlines, en France, etc., de pilotes, de navigants. Un avion décolle pour les États-Unis, le pilote commence à faire un arrêt cardiaque dans le cockpit, et pendant qu'on masse le pilote, l'hôtesse dit au passager, bon, on a un petit incident technique, on est obligé d'atterrir à Brest ou je ne sais pas où. Voilà. Mais c'est, ça s'est produit, et encore récemment, j'ai vu un avion qui décollait de Roumanie, qui a dû atterrir. Bon. C'est, alors, heureusement, beaucoup de pilotes ont survécu, mais c'est quand même dramatique. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. C'est ça qui va faire bouger les choses. C'est qu'on ne peut pas mettre les morts sur le tapis éternellement. Surtout quand c'est des personnes jeunes. Maintenant, là, j'ai voyagé pas mal. Tout le temps, j'ai rencontré des gens qui avaient eu des morts autour d'eux, y compris chez des gens jeunes. Les autopsies, malheureusement, ça fait plus de 10 ans qu'on est en train de supprimer tous les médecins, c'est-à-dire les anatomopathologistes capables de faire des autopsies. C'était courant en France, avait même avisé diagnostic quand il y avait des gens qui mouraient de choses qu'on n'expliquait pas bien. Maintenant, il n'y a presque plus d'autopsies, sauf avisées médico-légales. Et là, en France, il n'y a pratiquement pas eu d'autopsie dans le Covid. Quand j'avais discuté avec un médecin anatomopathologiste, il avait vu des choses. Je lui ai dit, mais tu ne veux pas témoigner, un professeur? Il m'a dit, non, mais il avait peur. Bon. Alors, heureusement, en Allemagne, aux États-Unis, il y a eu des médecins qui ont parlé, qui ont montré des images du microscope montrant les dégâts de la protéine de pointe, la protéine spike dans les organes, les vaisseaux. Alors, il y a eu beaucoup de myocardite. Ça a été nié en disant, oui, mais la myocardite, ce n'est pas grave, ça guérit en 15 jours. Mais il y a des jeunes qui... un an après, alors que c'était des grands sportifs, ne peuvent plus marcher 50 mètres dans la rue sans être essoufflés. Donc il y a des formes où le cœur a été atteint de façon grave. Des thromboses, des caillots, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, les cancers. C'est actuellement nié par les sociétés de cancérologie, parce que bon, faut savoir que la cancérologie est très liée à l'industrie pharmaceutique. Mais quand on discute avec des médecins de terrain, même il y a beaucoup de généralistes qui sont un peu spécialisés dans le suivi des personnes avec cancer, ils sont affolés. J'ai jamais vu ça depuis 20 ans. Des gens qui avaient des cancers guéris, stabilisés, qui flambent en quelques semaines. Des gens qui font plusieurs cancers d'organes différents en même temps et pas le même type cellulaire. Alors, ils appellent ça les turbo-cancers maintenant. Il y a des lymphomes malins, beaucoup de cancers du pancréas. Même j'ai vu, c'est passé dans les médias grand public. Là, tiens, augmentation importante du cancer du pancréas, on ne sait pas d'où ça vient. Et la stérilité, c'est très inquiétant. Alors, l'autre jour, j'étais à l'International Covid Summit à Bruxelles, au Parlement européen. Il y avait une session scientifique passionnante. Et j'ai vu le nombre énorme de publications scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture. Parce que souvent, ils disent non, mais tout ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas publié. Si, c'est publié. Mais on montre. Alors, j'ai pas le temps de faire toute la bibliographie de ce qui est publié, mais c'était impressionnant. Et il montrait les dégâts de la protéine spike sur les testicules, sur les ovaires. Bon, outre les problèmes de cycle, il y a aussi des problèmes de... Et on commence à voir en France la chute de la fertilité, comme dans beaucoup de pays. Alors tout ça, ils disent, ah oui, effectivement, même le journal Le Parisien, qui a toujours soutenu la politique gouvernementale jusqu'à présent, là, à la fin de l'année, il dit, ah oui, effectivement, il y a une augmentation importante de la mortalité chez les jeunes, mais on ne sait pas d'où ça vient. Le CDC a reconnu, c'est unknown origin, on ne sait pas d'où ça vient. Pareil partout. Alors maintenant, il y en a plein qui ont des explications scientifiques, qui disent, ah, ben, c'est le stress de la guerre en Ukraine. C'est le réchauffement climatique, c'est même de lasser ses chaussures. Il y avait ce qui est fou, c'est que ça commence à contaminer les journaux médicaux internationaux dans des journaux à comité de lecture. Il y a eu une publication récente qui dit oui, effectivement, on voit beaucoup d'augmentation de mortalité chez les vaccinés, mais c'est à cause des anti-vax. Alors on lit l'article. On lit l'article et dit oui, parce que les anti-vax ont diffusé beaucoup de messages anxiogènes sur Internet. Donc les gens qui ont reçu le produit expérimental sont un peu paniqués, ça les fait stresser. Du coup, il faut un infarctus. Non, mais c'est. J'ai vu sur la stérilité que c'était le changement alimentaire qui faisait qu'il y avait un changement du. Oh, ça va, c'est bon. Un changement du microbiote séminal, c'est-à-dire les bactéries dans le sperme. Le sperme, normalement, il est stérile, donc c'est n'importe quoi. Alors, juste ma légitimité pour parler, donc ça marche toujours, c'est que, bon, on m'a traité de complotiste, de tout ce qu'on veut, mais depuis 15 ans, j'ai quand même présidé des commissions officielles, c'est ça qui les gêne un peu. J'ai travaillé avec beaucoup de gouvernements. J'étais dans des groupes de travail à l'Agence du médicament. J'étais le professeur du collège des président du collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales. J'ai présidé le groupe officiel pour les vaccinations. Et à l'OMS, on y reviendra. J'ai été vice-président du groupe ETAGE, qui est le groupe d'experts pour la région Europe de l'OMS. Alors, mon CV, ça a peut-être été un peu mon vaccin, parce que C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont moins tapé dessus que d'autres, parce qu'ils ne peuvent pas dire que je suis un débile profond, même si certains le pensent. Alors, on dit, oui, vous critiquez, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, si on m'avait confié la gestion de l'épidémie, c'était terminé en 3 mois. Hein. Au lieu de confiner tout le monde, ce qui est débile, qui n'a jamais été fait, il suffisait d'isoler les cas, confirmer aux suspects, si possible à domicile, et de mettre en première ligne les médecins généralistes qui demandaient que ça, de traiter les gens tout de suite. Et le confinement a eu des conséquences catastrophiques, et Pierre Chaillot montre bien que dès qu'on a confiné, ça a augmenté la mortalité, mais qui n'était pas forcément dû au Covid, que les drames humains, les faillites, les suicides, etc., les drames familiaux, augmentation des violences conjugales, des violences sexuelles, même dans les familles. Quand les gens étaient confinés à je ne sais pas combien de personnes dans un petit appartement avec le chien, ils devenaient fous, hein, quelquefois. Bon. Le port du masque. Moi, j'ai toujours été pour le port du masque quand c'est bien utilisé. Je m'étais même battu pour la tuberculose parce qu'il y avait de la tuberculose qui se transmettait dans les hôpitaux. On ne faisait aucune précaution pour isoler les patients, porter un masque quand on était dans la chambre. Donc, le masque est utile quand on est dans la chambre du malade qui tousse, qui crache. Et là, même si ce n'est pas un effet à 100%, ça réduit la quantité de virus qu'on peut inhaler. C'est totalement inutile en population générale si on n'a pas de symptômes. Et d'ailleurs, c'est éprouvé. C'est le Danemark qui a fait la première étude randomisée. Ils ont tiré au sort des milliers de gens qui portaient le masque, qui ne portaient pas le masque. Il n'y avait quasiment pas de différence. Après, je crois qu'il y a Hong Kong, d'autres pays qui ont confirmé ça. Et pourtant, vous avez encore des gens, même l'Académie de médecine en France, il y a quelques mois, qui a dit qu'il faut relancer le port du masque. Même si ce n'est plus obligatoire en France, dans le métro, dans le train, on vous dit, on vous rappelle que le port du masque est fortement recommandé pour que tous se protègent. Tout ça, c'est complètement faux. C'est néfaste. Il y a des baisses d'oxygène dans le sang. Il y a des publications qui commencent à sortir. Et là, on vient de finir d'écrire un article qui n'est pas encore publié, qu'on est en train de finaliser. Il y a un groupe de parents en France, dans plusieurs régions, qui ont enregistré la saturation en oxygène au bout du doigt. Alors, c'est comme une petite pince à linge, mais ce n'est pas invasif. Un petit appareil qu'on met sur le doigt qui mesure la saturation du sang en oxygène. Et on le faisait à la sortie de l'école chez des enfants masqués toute la journée. Et ce n'était pas triste. Hein. Il y en avait un pourcentage négligeable qui avait un manque réel d'oxygène dans le sang. Hein. Et ça, on leur a imposé ça tous les jours pendant 2 ans, 8 heures par jour. Hein. C'est criminel ce qu'on a fait aux enfants. Les psychiatres n'avaient jamais vu ça. Il y a eu beaucoup de suicides d'enfants, ce qui était du jamais vu. Avant, il y avait des suicides d'adolescents, mais d'enfants, c'était jamais vu. Bon, les solutions hydroalcooliques, bien évidemment, et les traitements précoces, ils existaient et ils auraient dû être utilisés. Alors, quand on veut gérer une épidémie, d'abord, il y a des tas de plans d'action qui étaient écrits. Moi, j'avais participé à la rédaction au niveau national, international, mais ils ne les ont pas regardés. On implique les professionnels de première ligne. En France, les généralistes étaient super motivés. J'avais travaillé avec eux. Ils s'étaient organisés dans leur cabinet pour faire des cabinets Covid plus, Covid moins, pour ne pas mélanger les malades. On leur a dit, non, vous n'êtes pas compétents. On disait aux patients à la télé, surtout n'appelez pas votre médecin, il n'y connaît rien. Attendez d'être complètement... Prenez du paracétamol. Et si vous étouffez, vous appelez le numéro d'urgence. Voilà, donc ça a été dramatique. Et les généralistes, on leur disait, vous avez le droit d'avoir des masques, il n'y avait pas de masques. Donc ils se fabriquaient des masques avec un slip ou ils se faisaient des combinaisons de protection avec des sacs plastiques, des sacs poubelles. Et pendant ce temps-là, Macron dépensait des sommes faramineuses pour transformer nos policiers en Goldorak avec un matériel de protection de première ligne. On voit les résultats aujourd'hui. On en avait beaucoup parlé avec Astrid à l'époque, qui avait plus d'expérience de l'OMS que moi, mais ce n'est pas le moment pour de longues évaluations de traitements nouveaux. Et vous savez, en France, partout, ils ont lancé ces grandes études, Discovery, Recovery, e-Covid et tout ça. On aura les résultats plusieurs mois après. Ce n'était pas éthique du tout. Il y avait, même si tous les morts n'étaient pas dus au Covid, il y avait 400 morts par jour en France. Et le président qui dit ah « ben oui, on va démarrer une étude, on aura les résultats prochainement, et tu parles. » Et en plus, quand l'étude a été interrompue par le ministre après l'étude frauduleuse du Lancet, il a demandé qu'on inclue plus de patients dans le groupe chloroquine. Et alors, les diapositives avaient fuité, c'était le groupe chloroquine qui avait les meilleurs résultats, les autres traitements ne marchaient pas. Et on a une autre étude en France, e-Covid aussi, où quand ils ont fait arrêter, c'était le seul groupe qui marchait bien, c'était hydroxychloroquine, azithromycine. Et ça, après, personne. Et Recovery, l'étude anglaise de l'OMS, pour parler de l'OMS, ils ont utilisé 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme, qui était une dose potentiellement mortelle. Effectivement, il y a un excès de mortalité dans l'étude, mais ça, c'était volontaire. On a écrit une lettre de réponse dans le New England Journal of Medicine qui était acceptée à cette occasion. Comment des comités d'éthique ont pu laisser passer ça? C'est incroyable. Bon. Ne pas prescrire des médicaments sans données préliminaires, comme ils ont fait avec le remdesivir, qui n'était pas du tout un anti-infectieux. C'est un produit de l'industrie nucléaire. C'est un agent mutagène. Ils avaient développé ça pour essayer de voir si ça pouvait protéger les gens irradiés. Mais alors, c'est vrai qu'ils l'avaient utilisé en Afrique pour Ebola. Bon, ça avait été un échec. Et là, ils nous l'ont ressorti comme ça. Et je me souviens, en mars, j'avais des collègues infectiologues de l'Institut Pasteur qui passaient à la télé en disant, ça y est, on a le traitement miracle, le remdesivir, alors qu'il n'y avait pas d'études chez l'homme. Et il s'est avéré très toxique. Mais dès le début, en discutant avec mes collègues de médecins dans les réanimations à Paris, il y avait beaucoup de malades traités qui se retrouvaient en rein artificiel, insuffisance rénale aiguë, d'autres qui avaient des problèmes hépatiques très graves, qui avaient été dissimulés par les autorités, mais le seul avantage du produit, ça je reconnais, pour les actionnaires, c'était 2000 euros l'ampoule, c'est sympa. Quoi. Donc je vous dis, un vaccin, c'est 10 ans de recherche, 20 ans pour une femme enceinte. Quand Olivier Véran, notre ministre, il était masqué, mais je l'avais reconnu quand même à la télé, qui, l'année dernière, la seringue à la main, inocule une... Enfin, je ne l'avais pas reconnu, parce qu'en plus, je la connaissais, mais je n'avais pas fait gaffe au début. Une femme qui est ministre maintenant, qui était enceinte. Justement, quelques mois avant, il dit non, jamais on touchera, on injectera une femme enceinte. Et après, quelques mois après, à la télé, on le voit injecter une femme enceinte. Donc, c'est bizarre. Hein. Et puis, surtout, regardez l'expérience des épidémies précédentes et regardez ce qui se passe dans le monde. Hein. Et là, ils n'ont pas voulu le faire. En disant, oui, mais en Afrique, il fait chaud. Mais il y avait des pays qui faisaient chaud. En Asie ou en Amérique du Sud, les résultats ne dépendaient pas du climat. Alors, l'expertise indépendante, surtout la gestion des conflits d'intérêts qui est majeure. Moi, je l'ai vu au Conseil de la Santé publique, j'ai toujours fait respecter ça à la lettre. Et là, j'ai vu les avis, étaient tous... Il n'y avait pas eu de vote. Il y a le président, la vice-présidente, plusieurs avaient des conflits d'intérêts, ce n'était même pas mentionné. Les débats doivent être enregistrés. J'ai demandé les enregistrements par la... Il y a une commission en France pour avoir accès aux documents administratifs. Ah ben non, il n'y a pas eu d'enregistrement, donc c'était illégal. Et en plus, la moitié des gens qui rendaient l'avis, c'était marqué sur le rapport, n'étaient pas membres du Haut Conseil. Ils n'avaient rien à faire là. Alors, on a porté plainte au Conseil d'État en disant que tous ces avis sont illégaux. Ils ont dit, ah oui, on est d'accord que ce n'est pas fait comme d'habitude, mais c'est normal, il y avait l'urgence sanitaire. On a bon dos. Voilà. Et alors, ils ont créé des nouveaux conseils scientifiques qui ne servaient à rien, etc. Donc, un mot sur la justice. Il reste combien de minutes, là? Non, c'est bon. Ça va? J'ai encore un peu. La justice doit être indépendante. Comment? 20 minutes? Oh, ben, j'ai tout le temps, ça. La justice doit être indépendante. Malheureusement, j'ai participé à plusieurs recours. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont passé leur temps à valider des décisions et des lois illégales. Bon. Et moi, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Bon Sens. On a déposé plus de 60 plaintes en justice. Elles ont toutes été rejetées, alors qu'on avait plein de preuves à chaque fois. Ce qui est un gros scandale aussi, c'est l'exemption de responsabilité. C'est-à-dire que les fabricants de vaccins ne sont pas responsables s'il y a des effets secondaires, des morts. C'était déjà le cas aux États-Unis il y a plusieurs années, même avant le Covid. Les lobbies avaient obtenu ça. J'ai dit, bon, jamais ça viendra en Europe ou en France. Avec le Covid, ils ont tout fait passer. Et ça, c'est un grand scandale, quoi. Alors, un petit mot, parce que c'était pour faire cocorico en 2001, l'OMS, c'est pour une fois que l'OMS avait fait un travail bien. Ils avaient dit que la médecine française était la meilleure du monde, donc c'était super, on était fiers. Mais rassurez-vous, ça n'a pas duré. Comment détruire la meilleure médecine du monde, la pratique médicale, l'enseignement, la recherche? Mais il suffit de demander des recettes à des bons cabinets de conseil. On leur donne des petites sommes astronomiques et puis on coupe le financement pour les autres. Et c'est très facile à faire. Alors j'ai vu le dégât en France au fil des années, c'est monstrueux. Mais toute la médecine est en danger, il n'y a pas que l'hôpital. La raréfaction des médecins, elle est programmée depuis longtemps. Les pauvres généralistes qui restent encore là, ils travaillent du matin au soir, ils sont démoralisés, épuisés. Les jeunes qui s'installent, ils ne peuvent pas remplacer 4 ou 5 médecins qui sont partis dans la région. Il y a des spécialités médicales en voie de disparition, des mois d'attente pour une consultation. Et alors, avant, ça arrivait de temps en temps en France, aux heures de pointe, d'attendre 3-4 heures. Bon. Maintenant, en France, on attend dans des grands hôpitaux 3 à 4 jours. Il y avait des reportages à la télé, on voyait des brancards dans le couloir, deux infirmières qui couraient partout, qui n'avaient pas le temps de donner à manger aux gens qui ne bouffaient pas pendant 3 jours. Ceux qui pouvaient se lever, aller faire pipi, aller aux toilettes, les autres, ils faisaient sur leur brancard. Il y a eu des décès réguliers depuis plusieurs mois. Donc, heureusement qu'on a un ministre de la Santé à nouveau, là, Braun, qui est super, parce qu'il a plein de solutions. Alors déjà, je pense que les médecins, ça les dérange. Ça réfléchit trop, c'est peut-être trop cher, ça dépend lesquels, ils ne sont pas tous très chers, les pauvres généralistes, ils ne gagnent pas beaucoup. Alors, ils veulent petit à petit remplacer les médecins par d'autres professions. Ils vont peut-être garder quelques médecins pour appuyer sur les boutons des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, mais ils créent encore le super infirmière. Maintenant, ça s'appelle la pratique infirmière avancée. J'ai vu qu'aussi en Suisse, vous aviez ça. Des machines automatiques de consultation dans les supermarchés sont en train de proliférer, comme une cabine photomaton. Donc, en plus, je suis inquiet parce que quand on sait que Macron a vendu nos données de santé à Microsoft, j'espère que ça ne partira pas de la machine là, directement là-bas pour les compagnies d'assurance. Et alors après, si vous voulez vraiment voir un médecin, vous rentrez toutes vos données. Puis, si vous voulez vraiment voir un médecin, vous cliquez sur un bouton. Il y a Dr House là, qui apparaît derrière l'écran, qui vous fait un diagnostic, qui vous envoie une ordonnance. Voilà, donc c'est dramatique. Depuis une nouvelle loi qui est passée récemment en France, on autorise les pharmaciens à pratiquer la médecine. Alors, je pense que Big Pharma doit être content parce que le pharmacien, c'est lui qui prescrit, qui vend. Alors, les vétérinaires ont le droit, mais il vous dit surtout de ne donner pas des aliments naturels à votre chien, c'est très mauvais. Il vous vend des croquettes, il se prend 20%. Ben, c'est pareil, là. Hein. Fermeture des urgences la nuit. Ah oui, c'est ça, c'est notre nouveau ministre, il est super. On lui dit, mais monsieur le ministre, vous savez qu'on est obligé de fermer, il n'y a pas assez de personnel aux urgences. Il a dit, bon, mais il suffit de fermer les urgences la nuit. Et là, je viens de voir aujourd'hui, en arrivant à Manosque, une petite ville en Provence, il y a 3 postes de médecins urgentistes vacants, et ils ferment les urgences plusieurs jours par semaine, même dans la journée, parce qu'il n'y a plus de médecins. Vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Mais je crois que c'est volontaire. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est réduire l'hôpital public à néant, comme ça il pourrait être vendu pour 1 euro symbolique à des lobbies qui n'attendent que ça. Et la pénurie de médicaments essentiels est organisée à la fois pour, je pense, déstabiliser la population et surtout, moi, à l'OMS, alors j'ai travaillé là-dessus. C'est peut-être pas la seule cause, mais c'est un des éléments, c'est que maintenant, le marché des médicaments, c'est des milliards d'individus. Il n'y a pas tant d'usines dans le monde qui produisent des vaccins, autant de pays producteurs. Il y a souvent des tensions sur les chaînes de fabrication et on va donner toujours, quand il y a une pénurie, les médicaments aux pays qui payent le plus cher. Et les pays qui payent le plus cher, souvent, sont les pays les plus pauvres. Ça vous paraît choquant, mais à l'OMS, on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il y a une grosse corruption et les lobbies vont voir les ministres ou les dirigeants de certains pays en disant « Écoutez, là, tel médicament à 15 $, c'est pas raisonnable, il est à 50 $ ailleurs. Bon, allez, vous nous le faites à 30. » Mais comme le ministre ne veut pas, on lui met un petit $1 million dans la poche et ça passe. Non, mais je ne raconte pas des cracks. À l'OMS, on discutait de ça régulièrement sur les vaccins. Donc, c'est une des causes, notamment, que la France, notamment, qui marchande beaucoup le prix des médicaments, je trouve que c'est bien, du coup, est lésée quand il y a des pénuries. Alors, ce qui était choquant, on peut dire, bon, qui s'amusent à casser l'hôpital public depuis 20 ans, ok, mais alors en pleine crise Covid, ce qui était choquant, c'est qu'ils ont continué la destruction. Et en mars-avril 2020, Olivier Véran dit « Oh là là, on va doubler le nombre de lits de réanimation en France ». En fait, il a continué de fermer des milliers de lits. Alors pendant la première vague, vous savez, il y avait une grosse épidémie sur l'Alsace. Il nous montrait l'hôpital de Strasbourg au bord du gouffre, les malades qu'on ne pouvait plus prendre en charge, des hélicoptères qui partaient en Allemagne, des TGV, oui c'est bon, des TGV qui partaient à Bordeaux. Et après on a appris par des gros groupes, des gros hôpitaux privés qui avaient arrêté les activités pour accueillir les malades Covid, qui avaient tout le matériel moderne d'excellents médecins de soins intensifs. On leur a interdit de prendre en charge les malades parce qu'il fallait organiser ce film d'Hollywood devant les télés pour dire Strasbourg va s'écrouler. Alors, la caisse est vide, parce que Macron, pour les retraites, il dit ouais, il manque 3-4 milliards, mais il a dépensé 400 milliards d'euros pour le Covid. Je ne sais pas d'où il sort ces 400 milliards, mais bon. Pour des médicaments, des pseudo-vaccins inefficaces et dangereux, les tests PCR, on l'a vu, qui étaient destinés à gonfler les chiffres, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres dépenses. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quand même hallucinant que pour un petit virus qui a fait pas beaucoup plus de morts que certaines années, on aurait pu traiter pour pas cher. On en arrive là. Alors la pratique médicale est aux ordres. Et, vous savez, quand, moi j'ai participé il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, aux premières recommandations en France. Et c'était très soft à l'époque. On disait, ben voilà, c'est bien, les spécialistes se réunissent, font la revue de tout ce qui est publié. Ça va guider les médecins, mais il n'y a aucune obligation, c'est juste pour les conseiller. Puis petit à petit, ces recommandations sont devenues quasiment des obligations. Et si un médecin ne suit pas les recommandations, ben même la caisse d'assurance maladie, qui ne connaît rien à la médecine, se permet d'attaquer les médecins, le conseil de l'ordre, etc. Donc même si les recommandations, moi j'ai participé, certaines sont de mauvaise qualité, il y en a où il y a les preuves sont très mauvaises, il y a des experts incompétents et corrompus, ils s'appuient sur des journaux dont on peut douter de la crédibilité, pour ne citer que New England Journal of Medicine et le Lancet, qui ont quand même fait des publications frauduleuses. Donc ce qui est très choquant pour moi comme médecin, c'est que l'expérience du médecin, la vie du malade ne compte plus. Ils s'en foutent complètement. Ce qui compte, c'est maintenant, je vois les jeunes internes, mais ça me fait peur. Ils ne soignent que des résultats biologiques, des résultats d'IRM. Ils ne parlent plus au malade, ils ne l'examinent plus. Et si le malade dit « Excusez-moi, docteur, j'ai mal », non, on s'en fout. Quoi. C'est terrible, hein, ce manque de dialogue. Et maintenant, les malades que j'ai vus, là, j'ai pris ma retraite, j'en voyais encore il n'y a pas longtemps, ils disaient « Mais quand je vais voir mon médecin maintenant, j'ai l'impression qu'il soigne son ordinateur. Il est tout le temps sur l'ordinateur, mais il ne m'écoute pas. Et il remplit des dossiers, tout ça. Bon. » Et la suppression de la liberté d'expression aussi, c'est terrible. Alors que dans la Constitution de la République française, un professeur d'université a le droit d'avoir une indépendance de parole, ce qui n'a pas été respecté. Donc une chasse aux sorcières des résistants. Cette suspension des soignants, des... Et puis, c'est un peu que les soignants, même la secrétaire ou le plombier de l'hôpital devait être vacciné, inoculé, pardon, de façon obligatoire. Pourquoi on n'a pas fait pareil pour les gendarmes qui dépendent de l'armée et pour les policiers qui dépendent du ministère de l'Intérieur ? Moi, c'est des policiers qui me l'ont dit. On leur a dit, bon, on ne vous inocule pas, mais en échange, vous donnez bien de la matraque. Bon. Surtout, ce qui était dégoûtant, c'est qu'ils n'étaient pas licenciés. Donc, suppression de tout revenu, mais aucun droit au chômage, à la retraite, obligé de démissionner personnellement s'ils voulaient changer de travail. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui sont partis. Maintenant, ils sont installés comme naturopathes, des infirmières qui font d'autres métiers. Alors que c'est reconnu dans le monde entier que ces vaccins Covid n'ont aucun effet sur la transmission, ben la France, bon, ils sont en train de changer, mais ce n'est pas encore passé au Sénat, était le dernier pays au monde à maintenir cette abomination de suspension des soignants. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas parlé du paiement rétroactif des salaires, alors que d'autres pays l'ont fait tout de suite. Alors les attaques contre moi, juste pour... Il y en a eu plusieurs. Bon, il y a eu à l'assistance publique hôpitaux de Paris, j'étais chef de service depuis 26 ans. Comme on a traité... On a sauvé les malades, on était mal vus. Et le directeur de la paix m'a radié de ma chefferie de service en raison de mon indignité. Et le président des doyens des facultés de médecine de l'Île-de-France m'a aussi écrit pour me dire que j'étais devenu indigne encadré des étudiants. Et l'accusation majeure des deux, d'ailleurs, c'était que j'étais responsable de menaces de mort contre un jeune collègue qui avait affabulé contre moi. J'ai pu apporter les preuves parce qu'il m'avait même attaqué au Conseil de l'Ordre. C'était... abject, toutes ces attaques. Bon. Et puis, de toute façon, la chefferie de service, je m'en fichais parce que je la rendais spontanément 3 mois après, parce que je prenais ma retraite 1 an après, c'était déjà prévu. Bon, mais c'était juste pour faire un coup de pub dans les médias. Alors après, effectivement, j'ai eu l'attaque au Conseil de l'Ordre, bon, qui était plus sérieuse. Et finalement, la chambre disciplinaire a dit j'étais une des rares personnes en France à être capable de juger de la situation. C'est eux qui l'ont écrit dans le verdict. Et qu'au vu de mon expérience nationale et internationale, j'avais non seulement le droit d'exprimer une voix divergente, mais j'en avais même l'obligation. Donc j'étais très heureux. Merci. Bon, je vous rassure, ils ont fait appel, mais ça, c'est pas grave. Et c'est Mary Beth Pfeiffer, que je connaissais pour la maladie de Lyme, qui est une journaliste aux États-Unis. Elle fait tout de suite fait un article. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, j'ai reçu des messages de félicitations pour mon combat. C'était sympa. Alors, qui est-ce qu'on a, on a poursuivi ? C'est des médecins qui ont osé parler publiquement, qui ont critiqué les mesures, qui ont sauvé des vies en prescrivant l'hydroxychloroquine, des antibiotiques, l'ivermectine, et qui ont diffusé des données qui montraient que les vaccins étaient inefficaces ou l'excès de mortalité quand on a vacciné massivement. Voilà, alors que c'est eux qui ont sauvé beaucoup de gens. Ce qui m'a... Alors, j'ai découvert ça récemment. Moi, j'étais plongé dans ma routine depuis 30 ans. C'est que, en regardant un petit peu, la mise sous tutelle des facultés de médecine de l'enseignement avait déjà été organisée par Rockefeller dans les années 20 aux États-Unis, parce qu'il venait de racheter l'industrie chimique et il voulait absolument imposer tous les traitements chimiques à la médecine. Il a fait écarter dans les facultés tous les gens qui prenaient la médecine naturelle, l'acupuncture, les plantes, etc. Alors, un mot sur l'OMS. Donc, le groupe Étage, European Technical Advisory Group of Experts in Immunization, c'est le groupe qui conseille la politique vaccinale de l'Europe de l'OMS. Mais l'Europe de l'OMS, ça va jusqu'à Vladivostok. Hein, c'est toute l'Asie centrale, la Turquie, Israël. Bon, c'est un bureau qui est à Copenhague. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été vice-président pendant 6 ans. Alors, c'est marrant, les fact-checkers disent « Perron a dit qu'il était directeur adjoint de l'OMS. » J'ai jamais dit ça, mais ils ont dit... Et c'est faux, on l'a vérifié. Bon, c'est n'importe quoi. Et alors, en tant que membre ou vice-président d'État, j'étais invité permanent du groupe SAGE. Et SAGE se réunit, lui, à Genève, dans la grande salle là, que vous avez vue. Il définit la stratégie mondiale. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai vu avec mes petits yeux comme ça, d'expert ? Alors, déjà, j'avais appris que les revenus par les cotisations des États souvent étaient insuffisants et qu'il y avait beaucoup de pays qui ne... Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais à l'époque, ils me disaient que... Il y avait des pays qui ne payaient pas régulièrement leurs cotisations. Et c'est pour ça que l'OMS, il y a déjà un bout de temps, avait fait rentrer l'argent de l'industrie pharmaceutique, ce qui a mis l'OMS sous influence. C'est triste. Hein. Et puis le principal financier, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, parce qu'avec Gavi, comme le soulignait Astrid, c'est eux les plus gros pourvoyeurs financiers. Et alors l'OMS donc est sous influence des fabricants de vaccins, des représentants des fabricants de vaccins, puisqu'ils participent à toutes les réunions de SAGE à Genève. Ça m'a choqué, ils sont tous là. Heureusement, à l'Europe, ils n'étaient pas là. Mais ils sont présents partout, dans les couloirs, dans les bureaux. Il y avait un responsable d'un grand fabricant de vaccins qui disait « Monsieur Perron, l'affaire Cahuzac, c'est terrible pour nous. » Cahuzac, c'était un ministre qui touchait de l'argent pour accélérer les dossiers des médicaments et des vaccins. Il allait en prison à ce moment-là. Il disait oui, il nous coûtait cher, mais au moins avec lui, on savait que ça marchait bien. Quoi. Bon. Il disait comme ça à la pause café, hein, très décontracté. Bon. Alors, l'OMS est visiblement sous influence de la fondation Bill et Melinda Gates. Je sais que des sociétés privées ont été créées à Genève. Moi, j'avais rencontré les responsables de PASS, hein, qui c'est une boîte qui fait un peu de la modélisation, de la com autour de ça. Moi, j'avais pu découvrir que cette fondation finançait des fonctionnaires de l'OMS. J'avais un copain français qui n'avait pas avoir un poste stable à l'OMS. Et je lui ai dit, ça y est, Christian, je suis embauché. Puis il me dit, oh, si jeune, il monte sa fiche de paye, c'était la fondation Gates. Bon, tonne que je vous encourage à lire, hein, parce que Willy Borgdorfer, qui avait modifié ses bactéries aux États-Unis, il était suisse, hein, il était de Suisse allemand, de Bâle, à l'origine. Il a eu des remords à la fin de sa vie. Il a livré ses archives secrètes qui auraient dû être brûlées à Chris Newby de l'université de Stanford. Et suite à la sortie du livre début de juin 2019, un mois après, il y a une motion qui a été votée à la Chambre des représentants des États-Unis demandant une commission d'enquête sur le Pentagone. Est-il vrai que vous avez exposé le peuple américain à une bactérie de guerre ? Puis par miracle, le Covid est arrivé. Du coup, pour l'instant, on ne parle plus de cette commission, mais je pense que ça va ressortir un jour. Donc, le lobbying à Genève, un petit clin d'œil à Astrid, parce qu'elle nous avait fait rentrer à l'OMS et à l'ONU par les petites portes. Il y en a un groupe d'experts internationaux qui était présidé par une Américaine qui avait travaillé pour le gouvernement fédéral, Jenna Luchetayer. On avait pu obtenir des modifications de la classification internationale des maladies pour Lyme. Enfin, ce n'était pas énorme. Et c'est là qu'un rapporteur spécial de l'ONU nous a dit « Vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la principale source de corruption au monde. Tu t'en souviens, Astrid, hein, tu étais dans la pièce. » Et résultat final, finalement, rien n'a bougé. Alors cette corruption, effectivement, moi je l'ai vue. En plus, moi j'ai des jeunes médecins qui étaient dans mon service il y a longtemps. J'ai gardé des relations amicales. Ils sont montés très haut dans l'industrie pharmaceutique. Bon, ils m'ont tous dit effectivement la corruption des leaders d'opinion majeurs qu'ils appellent les KOL. Et ils peuvent recevoir des millions de dollars ou d'euros sur des comptes offshore. Moi, plusieurs gens dans plusieurs labos me l'ont confirmé. Et ils ne le mettent pas sur leur déclaration, bien entendu. Mais après, ces personnes-là vont influencer leurs collègues. La plupart des médecins ne sont pas corrompus. Simplement, ils suivent si le grand professeur machin qui est très réputé dit ça, c'est que c'est vrai. Et puis, ils vont pas chercher. Ils n'ont pas le temps d'aller vérifier. La manipulation des journaux, je l'avais déjà écrit dans mon livre sur la maladie de Lyme. Parce qu'il y avait déjà des rédacteurs en chef du New England, du Lancet, qui avaient reconnu publiquement que beaucoup d'articles étaient falsifiés. Moi, j'ai pu le voir dans Lyme, où c'était très difficile de publier. Il y avait des agents de la Société américaine de maladies infectieuses qui noyautaient tous les comités de rédaction des grands journaux pour ne pas laisser passer un article sur Lyme qui n'allait pas dans leur sens. Et puis là, on l'a vu avec le Covid, avec les études frauduleuses dans le New England, dans le Lancet. Donc, moi, j'avais une grande confiance dans ces journaux il y a longtemps, mais maintenant, je préfère rencontrer un médecin qui me dit « j'ai soigné 2000 patients et de son expérience » que de lire un torchon dans des grandes revues. Alors, je terminerai avec les médias qui appartiennent aux financiers, une petite poignée de milliardaires en France, mais c'est pareil, je pense, partout. Emmanuel Macron, qui est toujours fauché, il a donné plus de 3 milliards d'euros aux médias français aux ordres. Il en a rajouté un petit peu. Les fact-checkers, j'en ai fait les frais de temps en temps, ils sont payés pour attaquer les vérités scientifiques et les experts dissidents. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a... Oui, c'est bientôt fini. Il y en a un qui m'a... c'est sa femme qui avait dénoncé ses actions. J'avais fini par apprendre que je faisais partie des 4 personnes sur la liste à abattre en priorité. Donc j'étais très fier. Bon, il y a l'industrie pharmaceutique et encore notre ami Bill qui est là derrière. Je terminerai là-dessus, c'est sur la liberté d'expression. J'ai presque fini. C'est quand j'étais au Parlement européen à Strasbourg, j'ai fait une conférence en octobre. L'après-midi, je suis allé dans une réunion pour me distraire sur la liberté d'expression. Et les conclusions, c'est qu'il est urgent de censurer beaucoup plus énergiquement les médias et surtout les réseaux sociaux pour protéger nos libertés, protéger nos démocraties. Ils sont forts. Et quelques jours après, Macron fermait Rumble en France, qui commençait à concurrencer YouTube. Et maintenant, il y a un projet de loi européen sur ces censures. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles. Alors, j'étais très fier de voir que Libération, on nous a attaqué plusieurs jours avant, avec ma photo en plus, le rendez-vous des Covid-sceptiques. Franchement, les présentations étaient remarquables, un très bon niveau scientifique. Et ce qui m'inquiète maintenant, c'est depuis quelques jours, on voit ça, le gouvernement français qui réfléchit sur la prohibition de certains réseaux sociaux, comme Twitter en ce moment a balancé pas mal de trucs, ça les embête. Ils prennent prétexte, parce que les jeunes qui veulent voir des films porno, ils ne vont pas sur Twitter, hein, mais ils prennent prétexte que pour prévenir la pornographie chez les jeunes, on va être obligé de fermer Twitter. Ils sont forts. Hein. Et ils ont prévu un texte pour exclure les mauvais usagers. Parce que moi, déjà, je pense qu'il y a des ordinateurs, quand ils voient Perron, moi, maintenant, si des gens font un film avec moi sur YouTube, ils disparaissent au bout d'une journée. Maintenant, c'est même une heure. Et ils ont des algorithmes, donc ce n'est pas assez efficace. Ils ont très peur des réseaux sociaux. Hein. Voilà, je fais un petit mot sur mes livres. Le Lyme, je l'ai fait en français, La vérité sur la maladie de Lyme. En anglais, Crypto-infection, Crypto-infections. Le livre de Chris Newby, dont je vous ai parlé. Il est en anglais, mais il est passionnant. Ça, c'est ma trilogie, là, sur Covid. Alors, soi-disant, j'allais être attaqué en diffamation. Tout ce que je dis est prouvé. Il y a toutes les références, donc je n'ai jamais été attaqué sur le contenu des livres. Et puis voilà, je terminerai là-dessus. C'est qu'il faudrait revenir à une médecine holistique et humaniste. Il faudrait foutre tout le système en l'air, hein, malheureusement. Et comme le disait quelqu'un avant moi, apprendre à dire non, c'est très important. Et revenir aux valeurs d'Hippocrate, d'Aristote. Mais là, j'étais assez pessimiste, mais je suis quand même optimiste que je vois que tout ça s'effondre et qu'on va aller, je pense, tous ensemble vers un monde meilleur. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Je continuerai à me battre. Voilà mon message.